Le cimetière de Lampedusa. Le commandant Salvatore Piracci somnolait sur sa couchette. Il avait quitté le pont une heure plus tôt, mais ne parvenait pas à dormir. Le roulis était fort. Il repensait à ces instants qu'il venait de vivre sur le pont du navire. Il savait bien que cela avait été inutile et qu'il était resté dehors trop longtemps, mais lorsqu'il avait été là, accroché à sa rambarde, face aux vagues qui lui léchaient les pieds, lorsqu'il avait été au cœur du vacarme des mers, fouetté par les vents et aspergé de paquets d'eau sans ménagement, il s'était senti vivre. C'est pour cela qu'il était resté si longtemps. Il avait senti ses forces revenir à lui. La mer l'entourait de partout et il avait eu envie de hurler. Un instant, il avait même pensé sauter par-dessus bord, non pas pour se noyer, mais pour être encore davantage au cœur de la tourmente, se battre avec la mer, lui faire sentir son énergie et sa hargne d'homme vivant. Mais la perspective d'ajouter à cette journée un cadavre de plus l'avait arrêté. Il était resté là, soufflant et criant à chaque vague qui venait lui laver le visage. Il comprenait maintenant à quel point il n'avait été qu'une ombre ces derniers temps. Autrefois, il ne faisait qu'un avec ses hommes. Chacun allait à sa tâche, personne ne se gênait. Il connaissait parfaitement son équipage. Gianni, Matteo, les autres, tous avec lui depuis au moins 4 ans. Il pensait à ses dernières semaines passées en mer et il était obligé de constater qu'il se détachait peu à peu de sa vie. Ses hommes, si familiers autrefois, lui étaient maintenant comme étrangers. Il les côtoyait avec distance. Il n'arrivait plus à rire avec eux, ne parvenait plus à s'intéresser véritablement à eux. Il les observait de loin, sans les comprendre. Combien de fois les avait-il contemplés tandis qu'il assurait la manœuvre comme on observe une danse étrange à laquelle on ne participe pas? Les hommes s'affairaient dans un bruit de câbles et de cordes. Lui donnait des ordres, répondait aux questions, mais il n'était pas avec eux. Combien de fois s'était-il senti comme quelqu'un qui vient de faire un pas en arrière de sa vie et constate que le monde continue sans lui, que son absence n'est même pas notée? Oui, c'était cela. Il n'était plus tout à fait en lui, comme s'il se décollait de sa vie. Les hommes de l'équipage s'en rendent-ils compte? Pensa-t-il. Sûrement. Il le voyait dans leur regard, mais cela lui était égal. Il ne se sentait pas la force de dissimuler. Le sommeil ne voulait toujours pas venir. Il se tenait écarté de lui comme s'il y avait quelque danger à s'emparer d'un tel corps. Salvatore Piracci continua à réfléchir en fixant le plafond de sa cabine. Pour la première fois depuis qu'il avait embrassé la carrière dans la marine, il lui sembla impossible de passer une vie entière au rythme des patrouilles en mer. Qu'allait-il faire? Arraisonner des barques trouées pendant 10 ans? Escorter des ombres jusqu'à des centres de détention pour ne plus jamais les revoir? Et après, à l'âge de la retraite, il fêterait son départ autour d'un verre de moucheux et irait s'enterrer dans un appartement silencieux de Catane. Tout cela était absurde et vain. Lorsqu'il pensait à cette succession de jours et de nuits qui lui restait à vivre dans son uniforme, la nausée le saisissait. Il suffoquait. La foi en la nécessité de sa tâche l'avait définitivement quitté. Pire, cette foi s'était transformée en suspicion. Il devait fuir tout cela. Il en était de plus en plus convaincu. Tout à coup, il sursauta dans sa couche. On venait de frapper plusieurs coups à sa porte. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, les coups redoublèrent. Il grommela. Gianni entra et lui annonça qu'un homme demandait la permission de lui parler. « Quelle heure est-il ? » demanda Salvatore Piracci. « 6 heures, commandant. »« 6 heures ? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt ? » ?»« Je pensais que vous dormiez, commandant. » « Quand arrive-t-on ? » ?»« D'après Matteo, dans une demi-heure, commandant. » »« Bien, merci, Gianni. » Et Salvatore Piracci sauta de sa couchette pour remettre ses cheveux en ordre face à la glace. « Qu'est-ce que je lui réponds, commandant ? » demanda encore Gianni. « À qui ? » ?»« Ah, oui. Faites-le entrer. Mais si cela s'éternise, revenez me chercher dans 10 minutes. » Gianni disparut. Salvatore Piracci se passa un coup de peigne. Au fond, il avait peut-être dormi. Avant qu'il n'ait le temps de boutonner totalement son caban, on frappa à nouveau à la porte. Le commandant crut que Gianni avait oublié quelque chose et grommela d'entrer avec mauvaise humeur, mais celui qui se tenait devant lui n'était pas le jeune marin. C'était le clandestin qui avait servi d'interprète. Il hésita devant le seuil de la petite cabine, puis pénétra avec douceur dans la pièce, comme un chien habitué aux coups qui longe les murs, tête basse. « Qu'y a-t-il ? » demanda Salvatore Piracci. Le visage de l'homme exprimait la gêne. Le commandant pensa que cela ne présageait rien de bon. Il eut envie de rompre immédiatement cet entretien en prétextant une urgence, mais n'en eut pas la force. L'autre ne parlait toujours pas. « Que voulez-vous ? » répéta Salvatore Piracci. « Je voudrais vous demander quelque chose, » murmura-t-il. « Je vous écoute. » « Nous allons bientôt arriver en Italie, n'est-ce pas ? » « Dans l'île de Lampedusa, c'est exact. Et nous allons être emmenés par la police. Oui, jusqu'à un centre de détention provisoire. » L'homme fit une pause. Il avait baissé la tête, puis lentement, d'une voix plus grave, il dit « Y aurait-il un moyen pour que... » Mais il n'acheva pas sa phrase. Salvatore Piracci attendit, puis lui demanda « Pour que quoi ?»« Pour que je ne débarque pas avec les autres, » répondit l'interprète. « Que voulez-vous dire ?»« Personne ne sait combien nous étions au départ. » Personne ne sait combien sont morts en mer. Il aurait très bien pu se faire que je sois l'un d'entre eux. Cela a tenu à peu de choses, un peu de chance, rien d'autre. Les policiers qui vont nous arrêter à Lampedusa n'attendent pas un nombre précis d'hommes, ils viennent juste prendre ce que vous leur livrerez. Qui se soucie d'un homme de plus ou de moins ? Que voulez-vous dire ? Répéta le commandant qui commençait pourtant à très bien comprendre ce dont il s'agissait. « J'ai de l'argent, » reprit l'homme en le regardant cette fois droit dans les yeux. « Pas beaucoup, bien sûr, mais c'est tout ce que j'ai. » Et il sortit d'un coup de ses poches des liasses de petits billets sales et chiffonnés. Le commandant, à la vue de cet argent, fut horrifié. « Rangez cela tout de suite, » dit-il d'une voix sèche. « Ce n'est pas beaucoup, » reprit l'interprète, qui ne savait plus s'il avait commis une faute ou s'il devait poursuivre. « C'est trop peu pour que quelqu'un comme vous, je sais, mais je n'ai pas plus. Ce n'est pas le problème, » répondit le commandant. L'homme alors s'enhardit. Il se fit violence pour parler sans détour. « Je vous en prie, commandant, il vous serait facile de me cacher dans le bateau, » dit-il. « Ici, par exemple, dans votre cabine ou n'importe où ailleurs, je suis sûr que personne ne viendra fouiller. J'attendrai la nuit, puis je descendrai. Vous ne me reverrez plus jamais, je ne demande rien de plus, juste cela. Ne me faites pas descendre avec les autres. » Le commandant avait le visage dur et fermé. Il serrait les mâchoires et le rouge lui était monté aux joues. « Sortez !» dit-il sèchement. « C'est inutile de poursuivre cette conversation. »« Commandant !» insista encore l'homme en lui agrippant le bras. « Vous pouvez changer ma vie. Il suffit de... »« Je ne peux pas !» répondit le commandant en se dégageant. L'homme alors baissa la tête. Il ne dit plus un mot et tourna les talons, laissant le commandant seul dans sa cabine. Salvatore Piracci entendit encore le bruit de ses pas dans l'escalier en fer, et déjà il pensait « Il a raison. Je pourrais. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Ce ne serait même pas difficile. Je l'enfermerai ici. Personne ne vient jamais dans ma cabine. Puis il disparaîtrait. Je pourrais faire basculer sa vie. Il l'a bien mérité. Il a échappé à la tempête. Tant d'autres sont morts ce soir. Qu'il en passe au moins un. Je pourrais, oui. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Il entendait encore le bruit des pas s'éloigner. Il se sentait harassé. C'est à cet instant que la sirène du navire fit trembler l'air. Il sursauta. Le port était en vue. Dans quelques instants, il commencerait les manœuvres d'amarrage. Alors il frappa de toutes ses forces contre la petite table en bois de citronnier qui jouxtait sa couchette et remonta sur le pont d'un pas pressé avec de la rage dans les yeux. « Là encore je pourrais, » se dit le commandant. Il était sur la passerelle, de là il embrassait du regard l'ensemble du pont avant. Les clandestins se tenaient serrés contre la rambarde pour ne pas gêner l'équipage tout en ne perdant rien des différentes opérations en cours. Les hommes de Piracci entreprenaient la manœuvre, allant, venant, déplaçant les cordes, accrochant des câbles. La terre ferme était à une dizaine de mètres. Les moteurs faisaient d'énormes bouillons dans l'eau pour se rapprocher avec douceur du quai. À terre, les hommes du port aidaient à la manœuvre en roulant les cordages autour des bites d'amarrage, tandis qu'un groupe de carabiniers se tenait immobile, observant la lente progression du bâtiment militaire. « Ouais, je pourrais encore penser à nouveau Salvatore Piracci. Il me suffirait de l'appeler. De là où ils sont, les policiers ne distinguent rien. Cela peut être fait en quelques secondes. Je l'appelle. Je le cache, je le sauve, et puis je le rends à sa vie. Pourquoi pas ?» Il observait Gianni aller d'un point à un autre du pont. Il observait le petit groupe serré de clandestins qui redoutait l'instant où tout serait achevé et où on entreprendrait de les faire descendre. Ils avaient peur, cela se voyait, craintifs devant ce monde à venir dont ils ne savaient rien, ignorant du sort qui leur serait réservé. N'importe lequel de ceux-là, pensa le commandant en observant le petit groupe. Je peux sauver n'importe lequel de ceux-là, en choisir un au hasard. Pourquoi pas ? Le choc de la coque contre les bouées accrochées au quai fit un bruit sourd. Les cordes crissèrent et se tendirent. La passerelle fut hissée, la frégate était maintenant comme un gros insecte entravé. Enfin, le moteur fut coupé. Cela sortit le commandant de ses pensées. Il entendit la voix de son second qui ordonnait aux clandestins de descendre. Les carabiniers en bas étaient prêts à les réceptionner. C'est alors que le commandant sortit de la passerelle et cria « Non, attendez !» Le silence se fit. Les hommes de l'équipage tournèrent la tête et l'observèrent, attendant un ordre ou une explication. Les clandestins s'immobilisèrent à mi-chemin sur l'escalier, craignant d'avoir fait quelque chose de répréhensible. Les carabiniers levèrent les yeux pour essayer d'apercevoir le visage de celui qui venait de hurler. Tous les regards convergèrent sur lui. Il resta un instant interdit, comprenant qu'il était trop tard. Il ne pouvait plus rien. Il avait hésité trop longtemps. Alors, d'un geste sec de la main, sans pouvoir dire une parole, il fit signe aux clandestins de continuer leur descente. À l'instant où ils le firent, il eut le temps de croiser le regard de l'interprète. Un long regard, noir et douloureux, qui disait sa rancune. Il aurait admis que Salvatore Piracci refuse sa proposition par principe, par idéologie. Mais il comprenait que le commandant était maintenant prêt à accepter. Il était simplement trop tard. Et cela était pire que tout. Alors il cracha par terre, sans quitter des yeux le commandant. Il cracha sur sa lenteur et sur ses bons sentiments inutiles. Il cracha sur cet homme qui laissait les choses aller leur cours, puis, l'instant d'après, le regrettait. Le commandant aurait voulu s'enfermer dans sa cabine et n'en plus bouger, mais il dut descendre pour signer des papiers. Il côtoyait encore un temps les hommes que les carabiniers mettaient maintenant en colonne. On les compta, on leur distribua de l'eau. Des médecins passèrent dans les rangs pour procéder à de rapides auscultations. Comme il n'y avait pas de cas nécessitant une intervention urgente, la colonne se mit en marche. On les fit monter dans des camions, on prit soin de les compter à nouveau, puis ils partirent en direction du centre de détention provisoire. Salvatore Piracci repensa à l'homme qui disparaissait dans ce camion, à l'homme à qui il avait dit non, et la colère lui fit serrer les mâchoires. Il signa les papiers qu'on lui tendait sans même y jeter un œil. C'est alors qu'il aperçut un groupe de militaires et de carabiniers au bout du quai. Il y avait là-bas un attroupement dense. Le commandant pensa qu'on avait peut-être finalement retrouvé les trois autres barques. Il héla un des hommes du port et lui demanda ce qu'il se passait. « Ce sont les Libyens, » répondit l'homme. « On les envoie sur le continent. » « Ceux qui ont mis les clandestins à la mer ?»« Oui. » Salvatore Piracci se dirigea avec détermination vers le groupe. Il se frayait un passage à travers les badauds. On le laissa franchir les barrières à cause de l'uniforme qu'il portait. Il alla droit vers le petit groupe de Libyens qui était sous escorte. Lorsqu'il arriva devant eux, il demanda avec autorité aux carabiniers qui étaient chargés de leur garde. « Ce sont les Libyens qu'on a interceptés dans la nuit ?»« Oui, commandant. Lequel d'entre eux est le capitaine ?»« Celui-là, » lui répondit-on en désignant un homme. Salvatore Piracci se tourna vers l'individu en question. C'était un petit homme moustachu qui fumait en regardant avec mépris l'agitation qui l'entourait. Le commandant marcha droit sur lui. Le capitaine libyen eut à peine le temps de lever les yeux, le commandant sans dire un mot le frappa de toutes ses forces au visage, puis il l'empoigna. Il repensait aux trois barques qu'il n'avait pas trouvées et que personne ne retrouverait jamais. Il pensait à la mère démontée qui avait mangé ses vies qu'on lui avait jetées en pâture. Il pensait à l'interprète qui avait sorti les billets froissés de sa poche en levant sur lui des yeux de suppliant. Il frappa et sentit la pommette de l'homme s'ouvrir sous la violence du coup. La chair saignait. Le Libyen essayait en vain de se protéger le visage et gémissait. Le commandant entendit des cris autour de lui. À l'instant où il allait à nouveau lancer son bras, il sentit trois hommes qui l'empoignaient avec force. Il chercha à se dégager. Il voulait continuer, frapper jusqu'à ce que l'homme gise à terre et au-delà encore. Mais d'un coup, une voix retentit au-dessus du tumulte. « Commandant, je vous ordonne d'arrêter cela tout de suite !» Il aurait pu passer outre et poursuivre, mais son corps se raidit. Il reconnaissait cette voix, c'était celle de l'autorité. Cela faisait 20 ans qu'il lui obéissait, 20 ans qu'il avait été dressé pour s'exécuter sur le champ. Sa main immédiatement resta suspendue. Il leva les yeux, le regard troublé, la respiration haletante. Il suait. « Foutez le camp !» entendit-il encore. Et c'était toujours la même voix, celle d'un colonel des carabiniers qui lui faisait face et qu'il ne connaissait pas. Il se passa la main dans les cheveux. Il n'était ni apaisé ni honteux. Il marcha un peu en titubant d'abord, puis d'un pas plus assuré. Sans se retourner sur le corps qu'il avait martelé de coups et sur le groupe d'hommes qui le laissaient s'éloigner avec un regard dur et une moue de dégoût, il arriva à la frégate. Il sentit que cette violente explosion n'avait rien étanché de sa colère. Il brûlait encore et monta les marches de la passerelle en continuant à serrer les poings. Allongé sur sa couchette, les yeux grands ouverts, il laissait indéfiniment les images de l'altercation repasser devant ses yeux. Il ne regrettait qu'une chose, ne pas avoir eu l'occasion de rosser cette crapule devant les clandestins. Il aurait aimé que ceux-ci soient encore sur le pont et qu'ils puissent jouir de ce spectacle. Mais cela n'aurait rien changé. Ce n'était pas ce soulagement qu'ils attendaient. Ce qu'ils demandaient, c'est ce que le commandant avait refusé. Il devait bien s'en moquer que celui qui les avait mis à la mer ait maintenant le visage tuméfié. Eux étaient en partance pour un centre de détention et rien d'autre que leur échec ne pouvait les occuper. Au fur et à mesure que Salvatore Piracci se calmait et que son souffle retrouvait sa régularité, son esprit chavirait sous le vent des questions. Il se serra la tête entre les mains. Qu'avait-il fait? Que lui avait-il pris? Tout cela était ridicule et obscène. À quoi cela servait-il? À se racheter petitement d'un courage qu'il n'avait pas eu? Il s'était jeté sur cet homme. Il s'était donné en spectacle devant ces hommes. Que lui arrivait-il? Tout se détraque, pensa-t-il. Je ne suis plus ce que j'étais. Il perdait son sang-froid, devenait coléreux et brusque. Viendrait bientôt un temps où ces hommes auraient peut-être à redouter son manque de discernement. Les choses glissaient en lui, tout se dérobait. Il se sentait épuisé, non pas de la rixe qui venait d'avoir lieu, mais d'une vieille fatigue qui le rongeait minutieusement. « Un vieillard, pensait-il, voilà ce que je deviens. » Et les jeunes gens que j'intercepte, eux, sont toujours plus forts. Ils ont dans leurs muscles la force et l'autorité de leurs 20 ans. Ils essaient de passer et réessayeront une fois, deux fois, trois fois s'il le faut. C'était cela, oui. Le gardien de la citadelle était fatigué, tandis que les assaillants étaient sans cesse plus jeunes. Et ils étaient beaux de cette lumière que donne l'espoir au regard. Ils ont bien raison. Se dit-il. 4 fois, 10 fois. Qu'ils essaient jusqu'à y parvenir. Il pensa alors qu'il ne servait à rien, qu'il repoussa des hommes qui revenaient toujours plus vifs et conquérants. Il repoussa des hommes qu'il enviait chaque jour un peu plus. Sa frégate le dégoûtait. Elle lui semblait une horrible chienne des mers qui aboie avec rage sur les flots, par habitude, par fatigue, par méchanceté. Ce ne fut qu'une heure plus tard, lorsqu'il eut la conviction qu'il ne restait plus personne sur le navire ou sur le quai, que Salvatore Pieracci se décida à sortir de sa cabine. Il était hors de question qu'il rejoigne le petit café où il avait ses habitudes. Il se doutait que certains de ses hommes y étaient déjà et qu'à l'heure qu'il était, il devait déjà être en train de raconter à ceux qui voulaient bien l'entendre comment le commandant avait fondu sur le capitaine libyen. Il ne voulait pas pousser la porte du café et connaître ce long silence qui ne manquerait pas de l'accueillir, signe indéniable qu'on était en train de parler de lui et qu'on s'arrêtait brutalement pour les pieds du coin de l'œil. S'il avait été à Catane, il se serait dirigé sans hésiter vers la Piazza Placido et aurait retrouvé son vieil ami, plongé dans la lecture des journaux du matin. Angelo l'aurait invité à s'asseoir sur une chaise derrière le comptoir. Il n'aurait peut-être pas eu le courage de raconter ce qui s'était passé, parce qu'il aurait eu trop honte, mais il aurait pu parler de cela ou d'autre chose. Il aurait aimé être là-bas, dans le magasin calme de son ami. Mais à Lampedusa, il ne connaissait personne. Il se demanda un temps où aller. Il voulait une solitude pleine et reposante. Il prit alors la direction du petit cimetière de Lampedusa. La fatigue de sa propre existence lui collait à la peau. Il la sentait peser sur son dos avec la moiteur d'un soir d'été. Il était vide et plein de silence. Lorsqu'il parvint au cimetière, il erra un peu, puis prit la direction d'une allée qui semblait abandonnée. Lorsqu'il fut parvenu à son extrémité, il s'arrêta. Le jour pointait doucement, tout était étrangement calme. Il était face à un petit groupe de stèles serrées les unes contre les autres. C'étaient de petits monticules de terre surmontés de croix en bois plantées un peu de biais. Les croix ne portaient aucun nom, simplement une date. Le commandant connaissait l'histoire de cette tombe. C'était celle des premiers immigrants. Au début, les habitants de Lampedusa avaient vu arriver ces embarcations de misère avec stupeur. La mer leur apportait régulièrement des corps morts, et ils en furent bouleversés. Ces hommes, dont ils ne savaient rien, ni le nom, ni le pays, ni l'histoire, venaient s'échouer chez eux, et leurs cadavres ne pourraient jamais être rendus à leur mère. Le curé de Lampedusa décida d'ensevelir ces hommes, comme il l'aurait fait avec ses paroissiens. Il savait qu'ils étaient probablement musulmans, mais il planta des croix, parce qu'il ne savait faire que cela, ou peut-être parce que c'était à son Dieu à lui qu'il les recommandait. Les premiers immigrants de Lampedusa furent ensevelis dans le cimetière municipal, au milieu des caveaux des vieilles familles de souche. Ces corps, brisés par les vagues et déchirés par les rochers, étaient accueillis de façon posthume sur la vieille terre d'Europe. Mais au fil des mois, il en vint s'échouer toujours davantage. Le cimetière devint trop petit et les villageois se lassèrent. Devant le nombre, ils demandèrent à l'État de prendre en charge les cadavres et plus aucune tombe anonyme ne fut creusée dans l'enceinte du cimetière. Où allaient maintenant les corps échoués sur la plage? Le commandant n'en savait rien. Le centre de détention provisoire avait été construit à l'écart de la ville pour ne pas troubler la vie des riverains et le séjour des touristes. On faisait place nette. Salvatore Pieracci regardait la silhouette étrange de ces croix de guingois et se demanda si l'hospitalité des gens de Lampedusa s'était usée comme son propre regard. Si lui aussi, à trop croiser la misère, n'avait pas fini par assécher son humanité. C'est alors qu'une voix le fit sortir de ses pensées. « C'est le cimetière de l'Eldorado », entendit-il. Un homme se tenait à quelques pas derrière lui. Il ne l'avait pas entendu s'approcher. Salvatore Pieracci le contempla avec surprise. « C'est ainsi que je l'appelle », reprit l'inconnu. Le commandant ne répondit pas. Il observa l'intrus avec mauvaise humeur. C'était un homme maigre, au dos voûté. Il avait quelque chose d'étrange dans sa façon de se tenir. On aurait dit un simplet ou une sorte de reclus vivant loin de la société des hommes. Mais sa voix contrastait avec son physique. Il parlait bien, avec vivacité. Salvatore Pieracci se demanda de qui il pouvait bien s'agir. Le gardien du cimetière? Un homme venu se recueillir sur la tombe d'un proche? Pieracci n'avait pas envie de nourrir la moindre discussion. Il espérait que son regard le ferait sentir, mais l'homme continua. « L'herbe sera grasse, » dit-il. et les arbres chargés de fruits. De l'or coulera au fond des ruisseaux et des carrières de diamants à ciel ouvert réverbéreront les rayons du soleil. Les forêts frémiront de gibier et les lacs seront poissonneux. Tout sera doux là-bas et la vie passera comme une caresse. L'Eldorado, commandant, ils l'avaient au fond des yeux. Ils l'ont voulu jusqu'à ce que leur embarcation se retourne. En cela, ils ont été plus riches que vous et moi. Nous avons le fond de l'œil sec, nous autres, et nos vies sont lentes. » Sans que Salvatore Piracci ait pu rien répondre, le petit homme s'éloigna. Il avait dit ce qu'il avait à dire, et il partit sans saluer. Le commandant resta un temps immobile de surprise. Qui était cet homme? Pourquoi lui avait-il dit tout cela? Avait-il assisté à la scène de la bagarre? Il repensa aux paroles que l'inconnu avait prononcées. Il les laissa résonner longtemps en son esprit. L'Eldorado. Oui, il avait raison. Ces hommes-là avaient été assoiffés. Ils avaient connu la richesse de ceux qui ne renoncent pas, qui rêvent toujours plus loin. Le commandant regarda autour de lui. La mer s'étendait à ses pieds avec son calme profond. L'Eldorado. Il sut à cet instant que ce nom lointain allait régner sur chacune de ses nuits.